Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, écho d'ailleurs. L'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, vous l'entendez peut-être, le bruit de fond n'est pas le même que d'habitude. Nous avons quitté les berges de la Seine près de Paris pour celle du Main, au cœur de la ville allemande de Francfort. Nous y sommes sur le stand du Centre National du Livre parce que s'y déroule comme tous les ans à cette époque la Foire Internationale du Livre de Francfort et que cette année, de plus, la France est l'invitée d'honneur. Cette Foire du Livre est très particulière dans la mesure où ceux qui en fréquentent les allées sont des professionnels, des écrivains, des éditeurs, des imprimeurs et peut-être des distributeurs. C'est l'endroit idéal pour prendre le pouls du marché international du livre, savoir comment il résiste à la vague numérique ou s'il en profite, et comment se répartissent les gains entre les différents acteurs, thème que nous allons aborder avec les invités que je vous présente maintenant. Bonjour Alain Mabancou.
Bonjour.
Alain Mabancou, vous êtes écrivain et enseignant, on ne vous présente presque plus sur les antennes de RFI. Vous êtes né à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Vous enseignez la littérature francophone et subsaharienne à l'Université de Californie, UCLA. Votre dernier roman paru au Seuil s'intitule Petit Piment, c'était en 2015. Au mois de février dernier, les éditions du Seuil, toujours elles, ont publié un livre collectif que vous avez dirigé sous le titre « Penser et écrire l'Afrique aujourd'hui ». Pourquoi êtes-vous ici à Francfort, Alain Mabancou ?
Je pense que j'ai contribué à cette invitation de la France comme pays d'honneur, puisque j'étais au conseil littéraire, donc j'ai participé également à la sélection, aux réunions.
Au conseil littéraire de...
J'étais là aussi pour imprimer quand même une touche qui ferait que la fête ne soit pas qu'une fête franco-française, qu'elle s'ouvre un peu sur l'espace francophone, qu'elle montre aussi que la littérature française n'a pas qu'une santé en se nourrissant des engrais qui sont à Paris, mais que ça vient aussi d'Abidjan, du Sénégal, d'Haïti, je ne sais pas, du côté de Michel Tremblay qui vient de gagner le prix de Monaco. Donc c'est ça aussi, ça devait être même l'Allemagne qui invite la langue française plutôt que la France. Voilà.
La langue française invitée d'honneur. À vos côtés, Pierre Dutilleul, bonjour.
Bonjour.
Pierre Dutilleul, vous êtes le directeur général du syndicat national de l'édition à Paris. Vous incarnez donc à ce micro le monde français de l'édition. Vous me disiez en préparant cette émission que c'était la 27e fois que vous venez ici. Pourquoi une fréquentation aussi assidue ?
Ah bah parce que c'est un moment magique où tous les gens qui font l'édition et toute la chaîne du livre dans le monde entier se retrouve pendant presque une semaine. Et c'est un moment magique. On utilise bien sûr le téléphone, internet, etc. toute l'année. Mais pour se voir physiquement, il n'y a pas 50 endroits et 50 moments. Et Francfort est ce moment.
Alors en face de vous, Pierre Dutilleul, Michel Chouéry. Bonjour Michel Chouéry.
Bonjour.
Michel Chouéry, vous étiez jusqu'au mois de mai 2016, donc il y a encore assez peu de temps, le patron de la librairie El Bourj à Beyrouth. Vous êtes donc libanais, vous êtes le cofondateur de l'Association internationale des libraires francophones et vous êtes actuellement directeur des partenariats éditeurs et librairies dans une maison qui s'appelle Bookwity. Qu'est-ce que c'est que Bookwity ?
Bookwity, c'est une plateforme internationale de vente en ligne, mais sa particularité, c'est une plateforme qui se veut de respecter la chaîne du livre, donc de travailler avec des partenaires comme des libraires, les éditeurs, particulièrement ceux qui sont les moins nantis, donc ceux qui sont les moins distribués, qui font pas partie des grands groupes, pour les aider à s'exporter plus facilement dans les autres pays, que ce soit francophone ou autre. Moi, je m'occupe de la partie francophone et arabophone, mais j'ai des collègues qui s'occupent de l'anglais, de l'espagnol, etc. Et notre mission, ben, par exemple, moi, je m'occupe de toute la partie africaine, sud-sud et sud-nord, donc de faire la circulation du livre en Afrique, de l'ouest déjà, et du sud vers le nord, mais aussi du Maghreb vers le nord, du Maghreb à l'intérieur du Maghreb, etc. Donc on essaie de faire circuler le livre partout. Et en respectant la chaîne du livre telle qu'elle et non pas en tuant des maillons ou en essayant de diminuer des maillons de la chaîne du livre.
Alors à côté de vous, Michel Chouéry, je termine ce tour de table par vous. Bonjour Manfred Wenzner, vous êtes le fondateur et le directeur d'une maison d'édition allemande qui s'appelle Das Wunderhorn. Oui. Quel genre de livre est-ce que vous publiez ?
Alors, Das Wunderhorn, c'est traduit en français, c'est la corne d'abondance.
Ouais.
Et nous publions depuis à peu près 35 ans Édouard Clisson, Patrick Chamasseau, Daniel Lafayette, Philippe Soupeau, Jean Carrière.
On pas sait... Madame Aboncou qui est en face de vous.
Pas, malheureusement, non, parce que lui, elle a trouvé une autre maison indépendante, très connue, très bien. Félicitations. Et en plus, on publie beaucoup de la poésie internationale. On fait des grands stages de traduction de la poésie sur l'Amérique du Sud, en Afrique, en Europe. Et on fait beaucoup avec des écrivains allemands.
Alors, au cours de cette émission, il y aura des reportages, comme c'est l'habitude. Nous irons à Abidjan pour retrouver Stéphanie Aglietti. Et à San Francisco, nous attend Éric De Salve. Alain Mabankou, vous avez expliqué tout à l'heure que vous étiez un des initiateurs de cette présence française ou francophone, je pense que vous préférez le mot francophone, à Francfort. Mais quand vous n'êtes pas au micro de RFI, vous faites quoi ces jours-ci pendant la foire?
Mais disons que il y a des choses qu'on fait qu'on ne voit pas forcément. Hier, par exemple, j'ai passé du temps avec les lycéens du côté de Bonn. Je suis allé là-bas. On était dans les classes. Ils avaient étudié un livre. Puis le soir, il y a 200 personnes qui sont venues. On a fait la conférence. On a discuté. Et puis j'ai repris le train. Je suis revenu à Bonn. Et puis ce matin, j'ai parlé à l'association des libraires du monde entier. Ça venait de partout. Et entre cela, je suis passé faire le sofa bleu, qui est une sorte d'émission que je découvre, mais apparemment c'est très connu. Voilà.
C'est la grande émission littéraire ici, de la télévision allemande.
Voilà. Donc
C'est l'apostrophe allemande.
C'est partout sur l'exposition du livre.
Voilà.
Ça se passe juste à côté.
C'est ça, et c'est transmis à toutes les chaînes.
Alors, vous passez tous votre temps ici en rendez-vous. Comment ça se passe, Michel Chouéry?
Oui, en fait, on vient en même temps découvrir, mais en même temps, on a des rendez-vous. On profite de ce moment, comme disait monsieur, de rencontrer des gens qu'on rencontre virtuellement ou par mail, donc de rencontrer physiquement. Puis on essaye surtout de découvrir aussi des éditeurs ou des auteurs qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer, avec qui on n'a pas pu échanger.
Alors Pierre Dutilleul, vous êtes le patron, l'un des patrons du syndicat national de l'édition. Vous étiez avant, m'avez-vous dit, chez Plon, La Découverte, enfin beaucoup de grands noms des maisons d'édition françaises. Donc, quand on est ici, c'est pour acheter et vendre des droits d'auteur?
Quand on est éditeur, oui, c'est les deux. C'est-à-dire qu'on achète des droits. Les traductions, par exemple en France, représentent à peu près 17% du total de l'activité. Donc c'est quelque chose de très important. Et le fait de pouvoir croiser tout le monde ici à Francfort, c'est l'occasion de trouver de nouvelles pépites, de nouveaux projets, etc. Et puis bien sûr, on vend parce qu'il faut bien financer ces achats. Et que vous voyez toutes ces tables qui sont là et tous ces éditeurs qui rencontrent leurs homologues des pays étrangers, des maisons d'édition étrangères comme la vôtre et qui échangent des droits, etc. Oui, exactement. Et voilà, donc c'est un échange en fait d'achat et de vente et qui occupe la pleine semaine. De quart d'heure en quart d'heure, pratiquement.
Alors, Manfred Metzner, vous êtes éditeur, vous êtes auteur aussi. Vous êtes éditeur surtout, donc vous avez vendu et acheté ces dernières heures?
Alors, chez nous, ça marche un peu autrement. Alors, pour nous, c'est ici une grande rencontre en famille, je veux dire, de rencontrer des amis et des amis, comme vous aussi a raconté, et de connaître par les amis, des autres écrivains. Il dit, oui, regarde, lui, il a écrit ce livre-là, et ça commence comme ça. Ce matin, il y a eu des écrivains de Guinée, qui sont venus et ont parlé avec moi sur vos livres.
Sur leurs livres, vous envisagez de les traduire?
Elles vont m'envoyer.
Ils vont vous envoyer leurs textes.
Mais au contraire à vous, chez moi, j'ai fait mes contrats avant la foire de livres parce que je ne me veux pas mettre dans ces 15 minutes chez les agents. Alors, je prends mes contacts avant avec les maisons d'édition ou Malheureusement, actuellement c'est comme ça avec les agents à New York, à Londres ou à Paris. Hein, c'est devenu aussi un grand business, c'est ça.
Alors et... ce salon est immense, rien qu'autour de nous, assis autour de petites tables noires, il y a une myriade d'éditeurs, d'agents, de traducteurs, que sais-je, des éditeurs français, ivoiriens, mauriciens, venant des pays arabes, du Canada, d'Amérique latine et j'en passe. Et avec Guillaume Munier, nous avons rencontré, non loin de l'endroit où nous sommes installés, Frédéric Martin pour les éditions du Tripode, et il nous a expliqué au cours de cette rencontre les raisons de sa présence ici à Francfort.
Quand vous avez la chance de publier des textes qui ont un bel accueil critique et public en France, vous devez aussi d'essayer de les propager dans d'autres pays et donc de leur trouver des éditeurs à l'étranger.
C'est votre cas ? Vous avez trouvé des éditeurs pour vos textes ?
Alors, je suis un petit peu un vieillard quand même de l'édition. Ça doit faire ma 20e Foire du Livre de Francfort. Donc, j'ai commencé dans le métier en cherchant des éditeurs étrangers pour Fred Vargas, par exemple. Et donc, oui, chaque année, on fait des rencontres parce que, Dieu merci, ça reste encore des métiers où le chiffre de vente ne suffit pas pour entraîner une publication à l'étranger, ou voire n'est pas nécessaire. Vous avez des vrais éditeurs qui peuvent miser sur des auteurs comme vous le faites en France, alors que l'auteur reste plus ou moins confidentiel, même dans son pays natal. Donc oui, chaque année, on a des belles surprises. Là, cette année, la grande surprise ou le grand plaisir, c'est Ali Zamir, qui est un auteur d'ailleurs qui a été accueilli plusieurs fois sur les antennes de RFI, qui est un auteur comorien, dont on avait publié le premier roman en 2016, et dont la première traduction à l'étranger, parce qu'il est en cours de traduction dans plein de pays, et l'Allemagne. Voilà, donc il fait partie des invités de la Foire du Livre de Francfort, puisque la France est invitée d'honneur. Et il y a une certaine ironie de l'histoire pour cet auteur qui est francophone, mais dont la langue maternelle est le comorien, à représenter la France, en tout cas la langue française aujourd'hui.
Vous disiez que c'était la 20e année de votre présence à Francfort. En 20 ans, qu'est-ce qui a changé ici ?
Il y a une donnée très technique ou économique qui est indéniable, c'est que traduire un livre coûte plus cher que de publier un livre d'un auteur dans son pays natal, puisqu'il y a un coût supplémentaire qui est celui de la traduction. Or, comme simultanément les ventes moyennes des livres s'érodent, en termes économiques, on va dire que le seuil de rentabilité est beaucoup plus difficile à atteindre pour les traductions. Après, ce qui n'a pas changé, c'est qu'encore une fois, ça reste un métier où vous avez des personnes d'une qualité humaine et intellectuelle remarquable qui vont dénicher avant tout le monde les auteurs qui deviendront importants dans 5 ou 10 ans.
Frédéric Martin, des éditions Le Tripode, rencontré dans ce salon de Francfort. Alain Mabankou, c'est un beau discours sur le métier d'éditeur.
Oui, je pense que Frédéric Martin a la connaissance aussi. Il n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. C'est quelqu'un qui connaît un peu comment ça marche. Et ce qui est bien, c'est qu'il va détecter aussi les nouvelles voies. Et ce qu'il fait en sus, c'est de prendre aussi ce courage d'un premier romancier ou un deuxième romancier, de le proposer à l'étranger. Parce qu'on sait le plus souvent que parfois, le succès qui se passe dans un pays n'est pas forcément communicatif dans l'autre. Un auteur allemand peut vendre 500 livres ici. S'il est traduit en France, parfois ils vont vendre 150 000. Les Allemands vont se dire, mais qu'est-ce que les Français trouvent à l'intérieur ? C'est un peu ce qui se passe. Et c'est même le danger qu'ils ont ici à Francfort. Quand les gens suivent les yeux fermés, les enchères, et on arrive à 1 million, et paf, quand on va publier le livre chez soi, ça ne vend plus rien. Donc il y a aussi, à un moment donné, c'est ce que dit Frédéric, c'est la conviction de savoir que voilà, moi j'aime cet auteur, je vais le suivre pour le meilleur et pour le pire. Qu'il vende 500 ou qu'il vende 1 million, je défends la littérature.
Manfred Metzner, vous étiez
oui,
d'accord?
Oui, je suis absolument d'accord parce que je crois que c'est une des grandes qualités des maisons indépendantes. Hein, ça, ce chemin que nous suivons, d'être fidèle avec un écrivain qui ne fonctionne pas avec son premier livre, peut-être il fonctionne avec le troisième ou quatrième, nous prenons le risque de publier les écrivains comme ça. Les grands machins, les grandes maisons d'édition ne prennent plus le risque de faire le deuxième ou troisième livre si le premier n'a pas marché. Vous savez, c'est pour ça nous sommes vraiment des défendeurs des maisons indépendantes, que ce sont eux qui gardent encore la culture du livre.
Pierre Dutilleul, vous, en tant qu'éditeur, est-ce que vous êtes un peu en accusation? Là, vous êtes le représentant des grands machins, comme dit Manfred Meister, des grandes maisons d'édition, et vous avez dirigé des grands machins?
J'ai dirigé des grands machins, mais le grand machin que je dirige aujourd'hui a 670 adhérents, dont plus de la moitié font moins de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ce ne sont pas des grands machins. Et la logique que vous expliquez, c'est exactement celle que nous vivons, nous, au quotidien. On a fait des études sur ce sujet-là, et sur 10 livres qui sont publiés, il y en a un qui gagne bien, deux qui s'équilibrent, et les autres sont financés par les trois premiers. Et ils perdent de l'argent. Donc on peut financer, avec les titres qui fonctionnent très bien, des deuxièmes, troisièmes romans d'un auteur ou d'une auteure qui n'a pas très bien fonctionné à son premier ou pas très bien dans son pays d'origine par exemple. Donc c'est un écosystème qui fonctionne très bien dans la vraie réalité.
Michel Chouri, vous êtes un peu l'acteur de dernier ressort de ce marché.
Je pense que les meilleurs alliés, en fait, des éditeurs indépendants, c'est les libraires indépendants. En fait, c'est eux qui vont mettre en valeur des livres. Mm-hmm. Moi, je dis souvent, quand je fais les formations à Libéry, qu'il y a certains auteurs, je ne vais pas m'amuser à les nommer, qu'on n'a pas besoin, on peut les mettre chez un dépanneur illettré, il est capable d'en vendre beaucoup plus qu'une librairie indépendante, parce que c'est des livres qui se vendent tout seuls. Et le rôle d'un libraire indépendant, c'est justement d'aller tousser des petites niches des éditeurs indépendants qui vont trouver des auteurs peu connu, mais de qualité, intéressant, que le libraire va adorer et qu'il va vendre en quantité dans sa librairie. Donc je pense qu'on fait partie de ceux qui sont dans ce combat-là. J'aimerais juste rajouter quelque chose concernant ce que disait Frédéric, c'est que,
Frédéric Martin, qu'on a entendu tout à l'heure.
C'est qu'on défend beaucoup ce que nous, enfin moi en tant que francophone libanais, je ne défends pas la langue française de France, je défends ma culture francophone, et je pense qu'il y a des cultures francophones, et ça c'est un peu le combat qu'on a, je ne sais pas si Alain bon, beaucoup sûrement va partager mon avis, on a des cultures francophones, nous partageons la même langue mais pas les mêmes cultures, donc du coup quand on est en tant que francophone dans un endroit comme Francfort, on n'est pas là pour défendre la France et le français de la France, mais la francophonie dans toute sa diversité qui est une richesse en tant que telle, mais nous partageons la même langue.
Mais alors Alain Mabankou, ça a été une défaite en quelque sorte cette organisation, pour le fait que ce soit la France qui soit l'invité d'honneur et pas la francophonie.
Non, c'est la langue française. Je pense pas que c'est parce que ça soit une défaite, puisque les Allemands ne sont pas dupes. Hein. Nous sommes invités, les Daniel Laferrère sont invités. Le Clésio n'est pas un écrivain parisien, c'est un écrivain du monde. Je vois les Eddy Kadour, je vois des écrivains qui incarnent.
Kamel
Daoud sont là, des écrivains qui incarnent le monde. Mais le discours quant au discours français, il est connu, il est pareil. C'est-à-dire la France aime toujours caqueter sur une motte de terre pour dire cocorico, nous sommes arrivés. Et à la fin, c'est nous qui sommes là pour défendre la langue française. Nous la portons aussi bien dans l'enseignement.
Nous, c'est qui ?
Mais que ce soit dans l'enseignement, dans l'édition, du côté du Liban, les syndicats de défense de l'édition, c'est ça qu'il faut parler, les questions de l'édition, et non de faire des grands discours. Par exemple, est-ce que vous trouvez normal, je l'ai souligné d'ailleurs même dans la presse allemande, que dans un discours d'un président qu'il vienne dire l'Allemagne accueille la France et la francophonie, ça veut dire que la France n'est pas dans la francophonie ? Ça veut dire que la France et ses anciennes colonies sont invitées.
Le discours d'Emmanuel Macron.
Dès l'ouverture, j'étais là en face, j'étais assis en face, il y avait en face de moi Angela Merkel et Emmanuel Macron. Je l'ai apostrophé en public, ça passera même dans une chaîne directement. On en a parlé. J'ai dit, Monsieur le Président, ça c'est un discours à bannir.
Pierre Dutilleul.
Alors, je pense qu'il n'y avait aucune intention derrière et que, bien évidemment, Alain Mabankou, ça n'est pas pour rien s'il est dans l'équipe qui a planifié les choses, la programmation de la présence de la langue française. Et c'est une réalité. Si vous regardez les panneaux d'affichage, ça n'est pas la France, c'est la langue française qui est invitée d'honneur de cette foire internationale. Et ce qui a été dit, alors effectivement, il y a parfois des paroles un peu malheureuses qui vont un peu trop vite, peut-être. Oui. Mais je crois qu'il ne faut pas séparer la France et la francophonie. C'est un tout, et c'est un tout qu'on se plaît beaucoup à contacter et à voir et à faire vivre ensemble.
Alors nous allons continuer ce débat, cette conversation autour du Salon de Francfort, puis du monde de l'édition et du marché mondial du livre dans la deuxième partie de cette émission. Après un flash d'actualité, je vous dis à tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Sur RFI. d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Nous sommes sur le stand du Centre National des Livres que nous remercions de nous accueillir à la Foire Internationale du Livre de Francfort. Quatre invités, l'écrivain Alain Mabankou, l'auteur et éditeur Manfred Metzner, le directeur du Syndicat National de l'Édition en France, Pierre Dutilleul, et Michel Chouéry, directeur au sein de la société Bookwity. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu que la Foire de Francfort était un rendez-vous incontournable pour le monde du livre, ce que les uns et les autres vous y faisiez, et l'importance qu'avait pour la francophonie, et non pour la France, vous avez bien insisté là-dessus, le fait d'en être l'invité d'honneur. Mais quand on vit en France, comme c'est mon cas, on entend toujours dire que l'édition est en crise et que les ventes de livres sont en baisse. Ça fait partie de la morosité française habituelle ou c'est un phénomène général et réel, Pierre Dutilleul ?
Ça fait partie de cette tendance que l'on a à trouver tout morose et gris.
Que l'on a en France ?
Que l'on a en France, oui. Et l'édition française va plutôt bien. Elle se maintient dans le temps, elle fait des progrès, elle a une richesse de production qui est inégalée. On continue chaque année de vendre un peu plus de livres que l'année précédente, ce qui est très encourageant. Ce ne sont pas forcément les mêmes, ils peuvent être davantage au format de poche, ils peuvent être un peu plus en numérique, etc. Mais on vend un peu plus d'exemplaires chaque année et l'année 2016 a été une année en croissance. Donc, et cette année, ben on verra, l'année n'est pas terminée, mais j'ai l'espoir qu'elle soit au moins équilibrée et probablement un peu positive. Donc on n'est pas du tout dans la morosité
Alain
que vous décrivez.
Vous portez le même regard sur l'édition française ?
Oui, mais moi j'ai souvent aussi critiqué un peu cette tendance à l'autoflagellation que nous avons en France. Hein, parce que le plus souvent, quand il n'y a pas de problème, on en cherche. Ouais, les livres ne marchent plus. Mais on entend ça depuis... Si on remonte même dans les années 1900, il y aura toujours, oui, mais la machine va faire ceci. Ça marche, l'édition. Dès que le livre croise vraiment son lecteur, le lecteur, il vient vers le livre. C'est à nous aussi de nous demander, est-ce que les outils que nous utilisons sont adaptés par rapport aux attentes qui sont là. Est-ce que comment on peut faire pour que les gens croisent justement ces livres qui vont leur parler ? Moi, quand je vois un livre qui me parle, dont les sujets m'intéressent ou dont l'histoire m'intéresse,
vous
évidemment,
l'achetez.
Non seulement je l'achète, mais je le lis. C'est-à-dire que on ne meurt pas en se disant que j'ai arrêté d'être lecteur à 25 ans. On peut arrêter un moment, revenir tout d'un coup parce qu'un livre a secoué en vous le besoin ou le plaisir de la littérature. C'est comme un peu le vélo. On laisse un peu, mais quand on le retrouvera, ben on saura retrouver même sur une pente.
Michel Chouéry, vous, au niveau international, est-ce que vous constatez un marché du livre qui se porte bien, qui est fort, qui se développe ?
Ça dépend. En fait, il y a des périodes où il se développe dans certains pays, où il se développe moins dans d'autres. Puis, donc, il y a des hauts et des bas. Et il faut dire que dans les pays, en fait, hors de la France, ça peut être un peu plus compliqué, surtout quand on parle de francophonie, parce que bon, il y a aussi cette présence des éditeurs français qui sont bien présents dans ces pays-là. Et c'est un combat continu des éditeurs de ces pays-là, et je ne parle pas ceux du Sud seulement, ça peut être la Suisse, ça peut être la Belgique, ça peut être le Canada, qui doivent toujours se battre pour mettre en valeur leur édition avec leur auteur, parce qu'un auteur qui veut être mis en valeur veut toujours être édité en France. Et donc, du coup, l'éditeur de son pays d'origine n'est pas mis en valeur avec lui quand il prend de l'ampleur. Donc, du coup, ça, c'est un combat continu que ces éditeurs ont, et c'est pour cela qu'il y a des hauts et des bas, ça dépend des chances qu'ils peuvent avoir.
Manfred Metzner, comment se porte Das und der Horn, d'abord, votre maison d'édition?
Das und der Horn, oui. Das und der Horn, ça se porte bien avec notre concentration sur le programme que je vous ai raconté, mais en général, la situation en Allemagne actuellement, c'est un peu en bas, les chiffres des affaires concernant les livres. Et en plus, je veux dire, il y a une grande différence, je crois, entre l'Allemagne et la France. La France, le livre a encore un statut exceptionnel et la culture a un statut exceptionnel. Ça n'existe pas dans cet haut statut en Allemagne. C'est aussi un pays des lecteurs. Et aussi un pays des artistes ou des éditeurs, mais l'acceptation et les valeurs des livres, des librairies, des écrivains, des maisons d'édition, n'est pas si haut que chez vous en France. Et c'est toujours les disputes et les discours que j'ai ici en Allemagne concernant la littérature, l'acceptance, et qu'on est accepté aussi, comme vous dites, comme un libraire indépendant. Ce sont eux qui font le travail. Ce ne sont pas les grands trucs. Mais la France, les valeurs sont, je crois, envers la culture plus haut que chez nous, l'acceptance. Et c'est un peu le problème, parce que chez vous, on défend vraiment, publiquement. Yeah? Et vous êtes un exemple pour nous, qu'on a lutté pour le prix fixe. Et c'était la France qui a dit, le prix unique, c'est ça. Et c'était toujours les initiatives de la France qui sont venues chez nous. On a aussi lutté avec les Français. Et ça, je dois le changer, que c'est aussi une valeur comme chez vous. Mais c'est dur, ce chemin là-bas.
À la Mabankou.
Je pense que dans ce sens aussi, le livre trouve finalement son lecteur, quel que soit. Le livre suit son chemin normal. On migre d'une langue vers une autre. On a un traducteur qui est au milieu, qui se crève à vous traduire pour vous faire introduire dans un nouveau marché. On n'arrive pas comme un obus qui tombe au milieu pour écarter tout et dire « voilà, je suis le plus beau, arrêtez d'acheter tout ce que vous achetez, j'arrive ». Il y a des gens qui ont la chance, s'ils ont des sujets à polémique, vous avez des types, des sujets déjà qui font grand polémique, à gauche, à droite, Houellebecq, Édouard Louis et autres, ils arrivent, tout de suite ils sont précédés. Mais pour ceux qui recherchent à l'intérieur de leurs racines, de leurs personnes, de leurs familles, de leur pays, genre Dany Laferrière, Lionel Trouillet et autres, il faut accepter que ça prenne le temps. Ça va toujours calmement, et quand ça va monter, eh ben ça peut même durer plus longtemps, parce que on sait déjà que vous étiez là en finesse pendant longtemps. Ça fait 17 maintenant 15 ans que j'habite aux États-Unis. 15 ans qu'on m'est traduit en anglais par Serpentel. La première fois que j'ai eu à la fois le Los Angeles Times, le New York Times, les journaux d'Oprah, c'est avec mon 11e roman, Petit Piment. Et à tel point que celui qui chroniquait se disait, bon, le premier romancier, il se rend compte que non, il y a déjà plus de 8 romans en anglais. Mais ce n'est pas pour autant que j'allais crier, ce n'est pas possible, il y a une injustice, parce que ça prend toujours, la traduction, c'est un autre marché. Il faut que vous soyez présent aussi dans leur circuit. C'est pour ça que j'assiste beaucoup aux foires anglophones. J'arrive, on m'invite au Nigeria, j'y vais, en Angleterre, j'y vais. Et puis, la présence aussi de ce livre, de mes deux derniers livres, qui étaient quand même dans les finalistes du Man Booker Prize. Donc, ça fait que tout le monde anglophone regarde. C'est-à-dire que voilà, c'est important.
Oui, parce que je parlais de l'opinion publique en Allemagne. Hein. Oui. Et c'est vrai, quand tu as nommé pour un prix, ou tu es sur un shortlist ou des trucs comme ça, c'est de l'intérêt. Autrement, non. Hein? C'est ça, je suis contre ces statuts que tu es seulement important quand tu es sur leur shortlist ou que tu reçois un prix. Les autres ont aussi mérité cette attention sur la littérature, sur le livre. Hein? C'est là que je vois la différence. Et je crois bien que c'est l'opinion publique envers la culture, la littérature en France est plus développée que chez nous.
Alors, Alain Mabankou, vous parliez à l'instant des États-Unis, de la Californie. La Californie, c'est le pays d'Internet par excellence. Et dans cet État américain, l'arrivée d'Amazon a rimé avec fermeture pour de nombreuses petites librairies locales. Beaucoup continuent de fermer et quelques rares établissements, souvent très spécialisés, résistent avec un vivier de clients habitués, toujours attachés au contact humain. Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Eric de Salve à San Francisco.
C'est une petite librairie nichée sur Castro Street, épicentre du quartier gay de San Francisco. Dogear Books a ouvert ses portes en 2016 quand beaucoup d'autres librairies fermaient, asphyxiées par la concurrence d'Amazon. Ici, la plupart des livres concernent la culture du mouvement LGBT. Cette spécialisation, c'est la clé de la survie pour Alvin, le manager des lieux.
Absolutely. Yeah, we get some very rare books, especially in the LGBT section, that are just kind of out of print and hard to find.
Oui, absolument. Nous avons beaucoup de livres très rares qui ne sont plus édités, surtout dans la section LGBT. Amazon est un problème pour tous les vendeurs de livres, mais nous avons une base de clients très fidèles qui aiment chiner et qui aiment acheter leurs livres en personne.
And would prefer to buy their books, you know, from actual people face to face.
Et dans sa librairie LGBT de San Francisco, les clients comme Leslie viennent acheter un livre comme par militantisme pour résister à la vente sur Internet.
I love shopping for books in person. I prefer it to the Internet. I want to support local bookstores.
J'adore acheter mes livres en vrai plutôt que sur Internet. Et je tiens à soutenir les libraires de quartier et les indépendants. Amazon est une des compagnies qui ont pris le contrôle du monde. C'est un changement de paradigme et j'ai le sentiment que je suis obligée de l'accepter, mais je n'aime pas ça.
I have to understand that the paradigm is changing, but I don't like it.
Mais Leslie est une cliente minoritaire. En Californie comme ailleurs, la tendance est très largement à l'achat de livres en ligne. Quelques rues plus loin, une autre librairie indépendante installée depuis 40 ans à San Francisco vient d'annoncer sa fermeture. Rob est vendeur dans cette librairie.
So in the back in the day when they were just dealing with books, we kind of figured, well, there's a chance that Amazon's going to collapse.
Au début, quand ils ont commencé à vendre des livres, on a cru que ça n'allait pas marcher. Nous étions optimistes, beaucoup trop optimistes. Et nos ventes ont commencé à chuter, en partie à cause d'Amazon, mais aussi à cause des tablettes liseuses que les gens ont commencé à acheter.
Et pourtant, derrière sa caisse bientôt fermée, Rob le confesse, il lui arrive lui-même d'acheter des livres sur Amazon.
Mais oui, moi aussi. J'ai essayé de résister à la tentation, et puis j'ai été impatient, et j'ai commandé sur Amazon. C'est le futur. Comme le dit Jeff Bezos, son fondateur, ce n'est pas Amazon qui a ruiné les librairies, c'est le futur qui les a ruinées. Amazon, c'est le futur.
Ironie de l'histoire, Amazon ouvre actuellement dans plusieurs villes des États-Unis de vrais magasins de livres qui remplaceront peut-être progressivement les libraires d'antan.
Un reportage signé Eric Desalves à San Francisco. Michel Chouéry, c'est un peu votre histoire, celle qu'il décrit là. C'est la disparition des librairies pour qui passe sur Internet.
Moi, c'était pas à cause de ça, mais en fait, je comprends parce que je suis pas mal les libraires à travers le monde à cause de ça. J'allais justement relever ce point qu'Amazon a repris commence à ouvrir des librairies de nouveau aux États-Unis parce qu'en fait, c'est vrai que c'est le futur, mais les librairies physiques ont une présence importante. Les gens achètent sur Amazon parce que c'est devenu une habitude d'acheter n'importe quoi sur Amazon. Ce n'est pas que le livre qui attend, on achète tout sur Amazon. Mais en même temps, on a besoin d'aller à la rencontre du livre, on a besoin de voir les papiers devant nous, de tourner le livre, de le feuilleter. Et ça, je pense que les gens ont commencé à le sentir, qu'ils ont ce besoin-là de toucher le papier, de toucher ce livre-là. Et d'où le fait que certains librairies sont en train de rouvrir, de tenir le coup plus longtemps. Mais c'est vrai qu'Amazon a fait du dégât.
Alain Mabanco, vous connaissez San Francisco, la Californie, Los Angeles, puisque vous y vivez et travaillez. Est-ce que Internet nuit aux livres?
Non, mais je ne pense pas que ça nuise aux livres, hein, parce que on peut aussi commander par Internet, les libraires indépendants ont des sites aussi. Même si ça prendra plus de temps, mais si on veut supporter un libraire indépendant, je vais dire que j'en connais à gauche et à droite, à Rouen, il m'arrive d'en commander. J'ai tout le temps pour mes livres de cours, je sais que j'arrive dans un mois, je lance déjà la commande une vingtaine de jours avant, ça arrive, ça fait toujours plaisir. Et puis, il peut arriver aussi à un moment donné où je suis en train d'écrire quelque chose, où je dois faire un cours sur un tel sujet, le livre n'existe nulle part. Mais il y a un petit livre quelque part qui se vend presque à 300 euros ou 400 euros, mais ça se trouve dans Amazon. Est-ce que je dois me priver? Je ne sais pas. Il y a un équilibre qui est totalement... Peut-être qu'il faut continuer à mettre la pression pour le rééquilibrage d'Amazon, mais là, c'est tellement complexe que ça, c'est une question qui relèverait du côté du syndicat national de l'édition.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, nous sommes à Francfort pour la Foire internationale du livre avec quatre invités, Alain Mabanco, que vous venez d'entendre, Pierre Dutilleul, auquel je vais donner la parole immédiatement, l'éditeur allemand Manfred Wenzner et le distributeur international Michel Chouéry. On n'en a pas encore parlé de cette structuration du marché de l'édition. Il y a des grands noms sur ce marché du livre. Le numéro un mondial, c'est Pearson, un groupe britannique. Il y a 37 000 salariés dans 70 pays et qui publient surtout des livres scolaires. D'ailleurs, on n'en a pas du tout parlé. On a parlé des éditeurs de littérature jusqu'à présent. Le numéro 2 mondial, c'est un anglo-hollandais que j'ai découvert, Relex, très fort lui aussi dans l'édition universitaire. Alain Mabanco, ça vous concerne. Le français Hachette, c'est le numéro 6. Est-ce qu'on peut raisonner en matière d'édition dans les mêmes termes qu'on le fait sur le marché automobile avec Volkswagen, Renault, Ford, Toyota, etc.
Non, parce que Pierre, non, je ne crois pas. comprends pas. Alors, bien sûr, c'est une réalité, cette concentration. Mais quand vous prenez des groupes comme ceux que vous avez cités, et prenons par exemple des groupes français qui sont également très importants, ils sont constitués d'un certain nombre de petites et moyennes entreprises qui sont des marques d'édition. Si vous prenez le groupe Editis, c'est 42 maisons d'édition. Le groupe Hachette, c'est encore plus. Donc, avec des responsables qui sont à leur tête et qui fonctionnent pour faire en sorte, comme le disait très bien Alain Mabankou, que le livre trouve ses lecteurs. Vous pouvez avoir tous les actionnaires de la Terre, si vous ne publiez pas le livre qui va aller à la rencontre du public, vous ne ferez pas le succès que vous pouvez espérer. Et ça n'est pas un hasard si les maisons d'édition que vous citez sont dans le domaine scolaire, qui est avec moins de risques peut-être que l'éditeur de littérature générale. Thomson, Elsevier, puisque l'acronyme que vous donniez, c'est Reed Elsevier, qui est un des grands acteurs anglo-néerlandais. Si vous prenez cette structuration, elle concerne des actionnaires, elle concerne la bourse, mais elle ne concerne pas la relation unique entre un éditeur et un auteur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Amazon, vous en parlez et on en parle, en termes de commerce, ils ont créé aussi des maisons d'édition, mais ils ne se sont pas donné les moyens aujourd'hui de créer cette relation unique entre un éditeur et son auteur. Et donc, du coup, ils ne comptent pas dans le monde de l'édition aujourd'hui comme éditeur. Et ça fait une grande différence.
Manfred Metzner, pour vous, Amazon, c'est un concurrent, un allié ?
C'est un concurrent, c'est vrai. Et ça, comme mon collègue a dit, il a dit qu'il fait Amazon aussi en Allemagne, c'est terrible. Mais nous avons, je crois, trouvé une petite solution parce que j'ai confondu une fondation, la fondation Kurt Wolf, et j'étais 10 ans le président de cette fondation. Et nous avons développé des programmes pour des maisons indépendantes, pour des librairies indépendantes, et nous cherchons toujours la solidarité avec les lecteurs.
Mais vous n'appartenez pas à un grand groupe
capitaliste. Non, nous sommes des petites maisons d'édition et ils sont organisés dans cette fondation et nous développons des programmes pour montrer ce que nous pouvons, ce que nous sommes comme maisons indépendantes. Parce que moi, personnellement, je suis persuadé que sont les maisons, c'est le chemin indépendant qui va vraiment changer et qui va être changé aussi la question de Amazon, de retrouver les qualités que nous avons, de parler de nous, de parler avec les écrivains, de les montrer et de le regarder face à face avec aussi les acheteurs des livres et de dire comme c'est là-dedans le bien livre et vous pouvez me demander qu'est-ce que je pense de M. Mabankou, de son livre. Alors, de faire les librairies indépendantes de petits centres culturels dans tous les quartiers des villes. Et quand vous prenez Heidelberg, par exemple, c'est une petite ville.
C'est la ville où vous vivez.
Ma maison d'édition. Voilà. Et c'est une petite ville de 160 000 habitants.
Une ville très universitaire.
Très universitaire, mais qui est, chaque quartier a une petite librairie indépendante actuellement. Hein, et ça, je crois, c'est le chemin qu'on doit faire et trouver la solidarité avec les écrivains, les maisons indépendantes en France, en Afrique. Ça, c'est le chemin pour nous, contre ce machinerie, machin,
Amazon. On va en parler tout de suite, parce que s'il y a une région où le marché du livre est encore débutant, c'est l'Afrique, en tout cas l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, en Côte d'Ivoire, toutes choses étant égales par ailleurs, le marché est assez dynamique. Écoutez ce reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Stéphanie Aglietti à Abidjan.
Les ouvrages de Madame Komara, toutes les femmes aiment bien.
Des romans à l'eau de rose ou des essais religieux, ce sont les livres en littérature générale édités par Michael Drey, la directrice d'Edilis, qui se vendent le mieux. Mais comme pour la vingtaine d'éditeurs de Côte d'Ivoire, ce qui met du beurre dans les épinards, ce sont les livres scolaires vendus en grande quantité.
Si par exemple vous avez des ouvrages au programme, ça peut vous apporter de quoi à vivre. Moi je ne peux pas dire que j'ai des moyens énormes. J'aurais voulu publier au minimum 10 livres par an parce que je reçois tellement de manuscrits qui sont intéressants. Mais je n'arrive pas.
Et si l'édition ivoirienne reste très dépendante du scolaire, c'est que le lectorat est encore restreint. René Yedieti, le PDG du groupe ivoirien Librairie de France, en sait quelque chose.
En Côte d'Ivoire, 42% de la population est analphabète. Ça, c'est le premier handicap. Le deuxième est lié au pouvoir d'achat. Nous avons une niche d'acheteurs, de lecteurs, qui se retrouvent dans le niveau social le plus élevé. Des intellectuels, des expatriés, des familles à pouvoir d'achat conséquent.
Dans ces 10 librairies, dont 6 se trouvent à Abidjan, environ 60% des ouvrages sont importés de France. Plus généralement, en 2016, la Côte d'Ivoire a importé plus de 4 millions d'euros de livres contre une valeur de 89 000 euros pour les exportations. Outre un déséquilibre de l'offre, les éditeurs ivoiriens peinent à diffuser leurs œuvres à l'étranger en raison de coûts de transport élevés. Quant aux ventes de droits d'auteur au Nord, elles sont très rares, s'accorde-t-il à dire. Une situation que déplore Ange-Félix Dacpri, le président de l'Association ivoirienne des éditeurs.
Les conséquences de ne pas exporter, c'est que le marché, il est juste local. Donc, les tirages demeurent minimes, avec la non-garantie d'écouler même ces tirages initiaux. C'est les droits d'auteur qui sont pas forcément importants. Un livre écrit par un écrivain ivoirien, édité par un éditeur ivoirien, qui se vend sur le marché occidental, c'est forcément un ambassadeur culturel.
Petite éclaircie cependant, en 2011, la maison d'édition Les Classiques Ivoiriens a signé un partenariat avec le distributeur français Oiseau Indigo. Accord qui, selon la maison d'édition, a permis d'augmenter sensiblement ses ventes à l'étranger ces dernières années.
Un reportage signé Stéphanie Aglietti à Abidjan. Pierre Dutilleul, vous étiez récemment, je crois savoir, à Abidjan. Vous avez constaté la situation. Quelle était la situation de l'édition locale ?
Oui, nous avons rencontré effectivement avec le président du syndicat national de l'édition, Vincent Montagne, les personnes que l'on vient d'entendre. Je crois qu'il y a une vraie dynamique qui est en train de naître. On essaye, nous, bien sûr, dans l'esprit qui était décrit depuis le début de cette émission, dans l'esprit de la francophonie, du développement, effectivement, d'une édition qui est très intéressante, avec des auteurs qui sont tout à fait formidables, qui ont une littérature originale, qui n'est pas celle que l'on a sur le territoire français. C'est la même langue, mais ça n'est pas la même écriture et ça n'est pas la même littérature. Additionnons-les plutôt que de les laisser chacune de leur côté. On est en train, avec le ministère de la Culture ivoirien, de créer des liens pour justement favoriser ces passerelles entre la Côte d'Ivoire et la France.
Alain Mabankou, ça vous parle tout ça ?
Oui, ça me parle très très bien. Et moi, ce que je reproche dans le discours de nos deux intervenants tout à l'heure dans le document, c'est que
dans le reportage, c'est que parfois
j'en ai assez d'entendre les plaintes sur le pouvoir d'achat. Quand on dit pouvoir d'achat, moi j'ai été à Abidjan, en Côte d'Ivoire, je suis allé dans les boîtes de nuit, les jeunes qui claquaient des bouteilles à 500, 700 euros et qui arrivent devant un livre qui va coûter, je ne sais pas, 5 euros, ils vont parler du pouvoir d'achat. Donc il y a aussi un problème d'abord, j'ai dit, de pédagogie qui doit commencer à travers les ministères qui sont à l'intérieur. Je sais que, par exemple, en Côte d'Ivoire, mon ami qui est là-bas, Maurice Bandaman, qui est écrivain et autre, qui doit se battre pour cela, qui fait le prix Ivoire, qui fait beaucoup de choses dans ce sens. La pédagogie, c'est ça aussi, c'est d'expliquer aux gens que de la même manière, vous vous réservez de l'argent pour aller prendre des bières dans les Nganda, comme on dit, dans les maquis. Et à la fin, vous sortez avec une addition de 100 000 francs CFA et que le livre que vous êtes en train de houspiller, qui est même en poche et qui coûte par exemple 500 francs CFA, à un moment donné aussi, il faut se dire, bon, je vais acheter le livre d'un Amadou Kourouma ou d'un Bernard Dadier. J'ai pas la littérature africaine, j'ai pas la littérature en français. Si on continue à larmoyer chaque fois toujours, le pouvoir d'achat dit par les libraires eux-mêmes, et pendant ce temps, les livres scolaires qui coûtent encore plus cher que les romans, il y a un problème quand même.
Michel Chouéry, vous êtes libraire, donc c'est votre vocation première. Donc ce discours d'Alain Mabankou, vous l'entendez ?
En même temps, vous savez qu'on est présent actuellement en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, en tant que Bukuti, puisque l'Oiseau Indigo fait partie du groupe Bukuti et qu'on est Actuellement, on est en plein chantier. On espère que d'ici la fin de l'année, on va assurer la circulation du livre à l'intérieur même de l'Afrique de l'Ouest entre les éditeurs. Donc là, je participe en novembre à un séminaire interprofessionnel en Côte d'Ivoire et puis un autre après en fin novembre, début décembre pour essayer justement d'aider ce qu'AfriLivre depuis plusieurs années a essayé de faire avec l'aide du SNL, de l'Institut français en France et de plusieurs autres organismes à faire, c'est d'assurer cette circulation du livre déjà à l'intérieur même de l'Afrique qui n'existe pas réellement. Et aussi, on a fait justement un partenariat avec les classiques ivoiriens en Côte d'Ivoire et Abidjan pour la circulation du livre du sud vers le nord de la façon la plus économique pour les éditeurs et la plus efficace au niveau de leur visibilité en Europe et bientôt au Canada pour qu'ils puissent vraiment mettre en valeur leurs auteurs, leurs éditeurs avec des moindres coûts, avec une logistique qui va être vraiment consolidée et très pratique.
Manfred Metzner, le livre africain, c'est un livre que vous avez l'ambition de distribuer éventuellement, vous, de vendre ?
J'ai établi, il y a 10 ans, une nouvelle collection qui s'appelle Africa Wunderhorn, Wunderhorn Afrique, où j'ai publié jusqu'à aujourd'hui 24 volumes dans cette collection. Et je fais le premier livre des écrivains africains, Afrique du Sud, et Kenya, par exemple, Binyavanga Wainana, Echemwa, Joyalis Mukasonga du Rwanda, Echemwa, dans cette collection. Alors, je suis ce chemin, pour moi, pour faire connaître les jeunes écrivains africains des différents pays anglophones ou francophones, mais l'autre chemin aussi d'avoir un discours ici en Allemagne concernant la distribution, la diffusion, parce qu'il n'y a pas beaucoup de librairies en Afrique, il n'y a pas encore une diffusion efficace, une distribution efficace, et tout ça concernant l'infrastructure.
On pourrait continuer longtemps cette conversation. Oui. Malheureusement, cette émission touche à son terme. Merci à vous quatre, Michel Chouéry, Manfred Metzner, Alain Mabankou et Pierre Dutilleul d'y avoir participé. Merci au Centre National du Livre de nous avoir accueillis sur ce stand de la Foire du Livre de Francfort où nous étions installés. Guillaume Munier a réalisé et mis en onde cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.